Bonjour à tous. J'aimerais juste profiter pour que les uns les autres sachent on est ensemble en fait, donc autant savoir qui est ensemble, hein. Alors ici à Sadi Carnot ce matin, on est heureux d'avoir notre frère Jacques. De faire une petite série, je ne sais pas trop. Quel profil ça va prendre, mais j'étais interpellé sur le fait que Dieu nous appelle, l'appel de Dieu. Et Dieu appelle des personnes dans les textes bibliques, et certainement, de temps en temps, je ferai un message sur l'appel de tel ou tel personnage biblique. Et ce matin, plutôt une introduction, on ne va pas se pencher sur un personnage en particulier ce matin, mais sur le fait, frères et sœurs, que nous sommes appelés par Dieu. Est-ce que vous êtes appelés par Dieu? Oui?
Oui.
Amen.
Amen.
Est-ce que vous pouvez dire, je sais que j'ai été appelé par Jésus-Christ? Alors disons-le. Je sais que j'ai été appelé par Jésus-Christ. Ça, c'est une réalité. Nous voyons en Matthieu 4, 21, l'appel des disciples. Et un jour, dans notre vie, nous avons aussi reçu cet appel. Nous avons entendu la voix de Christ s'adresser à nous. Alors, bien sûr, pas forcément de manière audible, je parle d'une manière figuré. Mais son message a retenti à nos oreilles et est rentré jusque dans notre cœur. Et ce message, c'était un appel. Un appel à le suivre. Et depuis 2000 ans, Jésus-Christ appelle des hommes, des femmes, des enfants à le suivre. Et nous trouvons au chapitre 4, Matthieu 4, verset 21. De là, Jésus étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père. Et le suivirent. Voilà deux hommes qui étaient dans leur travail quotidien, dans leur métier, et surgit Jésus qui lance un appel. Et cet appel résonne dans leur cœur. Ils laissent ce qu'ils sont en train de faire. Ils mettent derrière eux leur vie d'avant pour entrer dans une existence où ils suivent Jésus-Christ. J'aimerais ce matin qu'on prenne mieux conscience du fait que Dieu a un plan pour nous. Dieu a un destin, une destinée pour nous. Il a une vision et il nous appelle pour nous faire entrer dans son plan. Ailleurs, il est dit qu'il nous appelle selon son dessein, le dessein de Dieu, c'est-à-dire son intention, ce qu'il a planifié, le croquis en quelque sorte qu'il a vu pour notre vie et dans lequel il nous dit, suis-moi et entre dans cette destinée. D'abord, ce matin, on va voir la nature de ceux qui sont appelés. Puis on va voir la nature de celui qui appelle. Puis on va voir notre appel commun. Il y a un appel commun qui nous est donc aux uns et aux autres identique, le même appel pour chacun. On va voir les promesses qui accompagnent cet appel. Et puis, il y a aussi un appel individuel, un appel particulier, un appel où vraiment là, de manière spécifique, pour toi, pour lui, pour elle, pour moi, Dieu nous adresse aussi un appel dans notre contexte qui n'est qu'à nous et il nous demande de le suivre. Et c'est formidable. Alors, d'abord en Matthieu 9, verset 13, quelque chose qui me fait beaucoup de bien, Matthieu 9, verset 13. Il y a Jésus qui est avec, il mange avec des gens de mauvaise vie, avec des publicains, avec des gens qui sont vraiment tordus par la vie, qui sont pas entre guillemets des bonnes gens, des gens lisses, mais qui sont quelque part connus et reconnus pour glisser moralement, dans de nombreux travers. Et on ne peut pas dire d'eux que c'est des gens, des justes, hein, vous voyez, des personnes qui font tout bien. Non. Et donc Jésus est critiqué parce qu'il mange avec eux. Et il commence au verset 12 à leur dire, Jésus les ayant entendus, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Et cette parole, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Amen. Est-ce que je me reconnais là-dedans? Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Jésus-Christ n'est pas venu appeler des propres justes, mais des pécheurs. Des gens tordus par la vie, abîmés par la vie, et qui continuent de s'abîmer en faisant des choix mauvais, que le péché a enchaînés. Oui, ce sont ces gens-là, les pécheurs. Que Jésus-Christ est venu appeler. Amen. Alors, ne soyons pas découragés. Nous avons pu dire ensemble tout à l'heure, je sais que j'ai été appelé par Jésus-Christ. Eh bien, s'il m'a appelé, c'est parce que je fais partie de ces malades qui ont besoin d'un médecin. Je fais partie de ces pécheurs qu'il est venu appeler, et il est venu pour eux, il est venu pour appeler des pécheurs et pas des justes. Alors c'est bien normal si dans cet appel auquel j'ai répondu, eh bien il y a tout un chemin. On a parlé de malades, on a parlé de médecins. Il y a tout un chemin de thérapie. Amen. C'est normal. Parce qu'il est venu appeler des gens qui ont besoin d'une thérapie. Thérapie du cœur. Un deuxième passage qui m'encourage beaucoup, 1 Corinthiens 1, dans la nature de ceux qui sont appelés. 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 26. Il dit, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'on voit dans ce passage? On voit que ceux que Jésus a appelés, en majorité, en moyenne, si on fait un tableau de probabilité, ce ne sont pas les puissants de ce monde, ce ne sont pas les riches de ce monde, ce ne sont pas les brillants de ce monde. Mais il dit non. Dieu a choisi les choses faibles du monde. Dieu a choisi celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas grand-chose. Et des fois, on peut se dire, j'ai été appelé à Jésus-Christ, mais je suis qui? Je suis un nul. Regarde dans le monde, dans cette vie, j'ai quelle place. Et puis nous, notre Église, elle représente quoi? Pas de puissance, pas de force. On n'est pas toute une bande de, je ne sais pas, de grands dirigeants d'entreprise et puis une sorte de confrérie qui a de quoi, aux yeux du monde, se dire on est quelqu'un. Mais justement, parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages dans la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Alors je ne suis peut-être pas le plus riche, le plus intelligent, celui aux yeux du monde de qui on va envier la vie, la réussite. On dira, oh ben, c'est des petites gens. Peut-être. Mais Jésus m'a appelé. Ça, c'est précieux. Et on a besoin de se rendre compte que ce que Dieu appelle, il va pas du tout faire le choix que le monde fait. Le monde fait le choix de ce qui brille, de ce qui est beau. Pour Dieu, Dieu nous a dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et Dieu appelle des cœurs qui sont prêts à le suivre. Il y en a chez les nobles, chez les puissants et chez les riches. Mais somme toute, parce qu'ils sont déjà remplis d'eux-mêmes et qu'ils pensent certainement n'avoir pas besoin de quelqu'un qui dirige leur existence la plupart du temps, ces puissants, ceux qui sont déjà comblés, ne veulent pas de Jésus-Christ. Alors, je me réjouis d'être de ces petits gens du monde que Jésus-Christ a appelé. Et qu'importe si le monde me méprise, qu'importe si je me dis, finalement, je suis quoi dans ce monde, quelle est ma valeur, etc. Ma valeur, elle est en Jésus-Christ, qui a été fait pour moi, sagesse, justice, sanctification, rédemption. Et je peux me glorifier, je peux me réjouir, et je peux être fier de ce que Jésus-Christ m'a appelé, vous a appelé. Amen. Alors, pas de découragement. Des fois, quand on se dit, mais je suis quoi, je ne vaux rien, je n'ai pas de dons, je n'ai pas de talent, pas de grands, il y en a qui sont meilleurs. Ouais. Justement, ce sont ceux-là, particulièrement, qui reçoivent l'appel de Jésus-Christ. Vous savez, quand une entreprise recrute, elle ne cherche pas les gens les plus faibles et les plus méprisés et les, vous savez, ceux avec qui il va falloir faire un terrible boulot de formation, de tout ce que vous voulez pour les mettre à niveau. Non. Quand une entreprise recrute, elle cherche déjà des gens qui sont au top. C'est comme ça que le monde marche. Et c'est là où tout l'amour et toute la puissance de Dieu se manifestent. C'est que lui, il dit pas, Moi, je travaille avec des gens qui sont déjà au top, sinon je les prends pas. Non, non, non. Il va chercher celui que peut-être on aurait écarté en disant, oh là là, si on investit là, c'est perte sèche. Non, Jésus, lui, il dit, ben moi, c'est celui-là que je vais prendre. Et vous allez voir l'œuvre que je vais faire dans sa vie. Vous allez voir l'œuvre que je vais faire avec lui. Et il nous appelle. Il nous engage, il nous forme, il nous transforme, il se glorifie à travers de ce qui est faible. Alors quand on se sent faible, comme Paul dit, mais quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Car c'est à ce moment-là que la puissance de Dieu peut agir dans ma vie. Si je me sens déjà fort par moi-même, la puissance de Dieu, elle ne peut pas se déployer. Alors quand on se sent faible, rappelons-nous que c'est justement des types comme nous que Dieu appelle. Dans notre faiblesse, dans notre petitesse. Et heureusement, il y a aussi la nature de celui qui nous appelle. On le trouve en 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, verset 24. Parce que bien sûr, il appelle des pécheurs, il appelle des malades, il appelle des gens qui sont faibles, qui sont écartés. On se dit, ouais, mais qu'est-ce qu'il va faire avec ? En 1 Thessaloniciens 5, au verset 24, à propos de la sanctification qui précède au verset 23 et qui nous dit, après avoir dit « abstenez-vous de toute espèce de mal », il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, ce travail de nettoyage, ce travail de thérapie d'un malade, c'est le divin médecin qui le fait lui-même, c'est Dieu lui-même qui va sanctifier notre être tout entier, esprit, âme et corps. Et le verset 24 insiste, il dit « Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. » Amen. C'est lui qui le fera. Pourquoi ? Parce que celui qui nous a appelé est fidèle. Amen. Et ça, c'est très important pour nous de nous souvenir. J'ai été appelé. J'ai pas été appelé parce que j'étais déjà au top. Pas du tout. C'est peut-être même le contraire. Mais celui qui m'a appelé, il est fidèle. Il va, avec fidélité, avec patience, travailler dans ma vie, guérir, soigner, changer. Nettoyer, sanctifier tout mon être pour que je sois irréprochable pour le jour de Jésus-Christ. C'est lui qui le fera parce qu'il est fidèle. Alors, notre appel commun. Là, j'ai relevé plusieurs versets, il y en a beaucoup. On va essayer d'aller vite, pas trop vite non plus. Hein. Mais pour nous donner des pistes de notre appel, et de notre appel qui nous est commun à tous, c'est le même pour tous celui-là. D'abord en Romains 1, versets 6 et 7, on le trouve dans la salutation de cet épître, Romains 1, l'obéissance de la foi, hein, au verset 6, il dit « Parmi lesquels vous êtes aussi vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. » Vous voyez ? On est appelé par Jésus-Christ. Appelé à quoi ici ? Au verset 7, il dit « À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés saints par vocation. » Ou, une autre traduction, « Appelés à être saints. » Appelés saints. Appelé à être saint par vocation. On se disait, mais c'est quoi mon horizon? C'est quoi ma destinée? C'est quoi mon appel? C'est quoi que Dieu a en vue pour moi? Oh ben, on a bien compris depuis un petit moment qu'il est venu appeler des pécheurs, des malades. Pourquoi? Parce qu'il nous appelle par vocation à être saint, à être nettoyé, à être purifié. On le retrouve en 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Et là, c'est un verset à nous rappeler. Seigneur, est-ce que je vis dans mon appel? À quoi tu m'appelles? C'est quoi ma destinée? C'est quoi l'horizon que tu me fixes? C'est quoi que tu veux travailler, construire en moi? 1 Thessaloniciens 4, verset 7, les termes sont très crus, très, très directs. Alors, j'y suis pas du tout. 1 Thessaloniciens Voilà. 4, verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Ça, c'est un appel qui nous est commun à tous. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Ça doit résonner en nous. Il y a une démarcation entre ce qui est pur et ce qui est impur, entre ce qui est sanctifié et ce qui ne l'est pas. Dieu nous appelle résolument, non pas à l'impureté des pensées, des actes, de nos relations, dans laquelle nous excellons. Parce que justement, nous sommes de ces publicains, de ces gens de mauvaise vie que Jésus a appelés, et nous excellons dans l'impureté et dans toutes ces variantes. Mais il nous appelle à passer de l'impureté à la sainteté, à la sanctification. Tout à l'heure, Jean-Denis nous a lu que c'est celui, tu peux le redire, qui triomphe du monde. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Et on voit que dans ce texte, c'est un présent continu, hein. C'est pas quelque chose qui est derrière nous et passé, c'est quelque chose en cours de route, en construction. Celui qui triomphe et qui continue aujourd'hui dans le présent de triompher. Aujourd'hui, j'ai une pensée, j'ai ceci, j'ai un événement, j'ai une épreuve, et parce que je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, je triomphe du monde et de la chair. C'est un processus. C'est la sanctification. Un autre appel, Galates 5, verset 13, qui est fondamental. Donc le premier, c'est la sanctification. Le second est la liberté. Galates 5, verset 13. Nous avons des chaînes. Nous avons des prisons. Nous avons des péchés qui sont comme des addictions. Mais nous avons aussi parfois un formalisme religieux, parfois, hein, du légalisme, des règles, et on fait les choses non pas dans une pleine liberté, mais un petit peu par contrainte, par obligation. C'est pas ce style de vie un petit peu contraint et obligé, et enfermé, et esclave, que Jésus-Christ nous appelle. D'ailleurs, il le dit dès le début du chapitre 5, Galates 5, il dit « C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Et donc, au verset 13, il dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté. » Et ça, c'est fondamental. Alors attention, il précise tout de suite après, hein. Il dit seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Ah, je suis libre, moi je suis libre, Dieu m'a appelé à la liberté, je fais tout ce que je veux, et voilà un bon prétexte pour vivre, et bien finalement loin de la pensée de Dieu et de son objectif pour moi, ça peut le devenir. Ah ben je suis libre de faire ce que je veux, oui, ben, fais. Mais sache que c'est un prétexte de vivre tout simplement selon les appétits de la chair et non pas selon ce que l'esprit plante en toi. Néanmoins, c'est fondamental, nous avons été appelés à la liberté. Et nous devons trouver cette liberté en Jésus-Christ, être libérés. Romains nous parle de l'affranchissement de l'esclavage du péché, cette victoire contre ces chaînes du péché qui peuvent nous mettre dans des états où Paul était, il dit, moi j'aimerais faire le bien, mais j'y arrive pas, je vois une autre loi à l'intérieur de moi qui lutte et qui fait que je fais ce que je veux pas, je fais même ce que je hais. Qui me délivrera de ce corps de mort? grâce soit rendue à Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, aucun enfermement. On n'est pas condamné à passer le reste de notre existence dans cet enfermement parce que Christ nous a appelés à la liberté. Croyons-le. Ayons-le en ligne de mire. C'est son appel et c'est lui qui le fera. Parce qu'il est fidèle. Nous avons un Dieu fidèle qui nous appelle. Une autre chose à laquelle il nous appelle et qui est précieuse, 1 Corinthiens 1, verset 9. 1 Corinthiens 1, 9. Il nous appelle à la communion de son Fils. Nous le lisons ensemble. Ah tiens, là encore, on voit Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. C'est rigolo, hein, le verset qui précède est exactement, quasiment le même que celui qu'on a lu tout à l'heure. Hein. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ. Non. Voilà un autre appel, le fait d'être en communion avec son Fils. C'est-à-dire dans cette relation intime qui partage, qui échange, qui dialogue, c'est l'essence même de la prière. Je parle en toute liberté, je m'adresse à Jésus, il écoute mon cœur et je me mets à l'écoute du sien. C'est important d'avoir notre vie jalonnée par des moments comme ça de rencontre avec Jésus. Non pas quelque chose de formel, de construit, mais vraiment quelque chose où notre cœur trouve le sien, il trouve le nôtre. Nous sommes appelés à ça. Et nous avons besoin de ça pour être fermes jusqu'à la fin. Vous savez, des fois, à l'école, il y a des enfants qui aimeraient bien être copains ou copines avec tel autre enfant. Puis ils viennent me voir et disent « Oui, mais je ne veux pas être ma copine. » Et ouais. Eh bien, Jésus, lui, veut être notre copain, si je peux m'exprimer ainsi. Mais vous comprenez que ce n'est pas avec légèreté, hein. C'est pas le pote, mais vraiment cette intimité. Il dit, mais moi, je veux être ton ami. Moi, je t'appelle. Viens, discutons, parlons, cœur à cœur. Je t'aime. Raconte-moi. Confie-toi. Nous sommes appelés à ça. Pouvons continuer un petit peu sur ces appels. Tournons quelques pages, 1 Corinthiens 7. On va accélérer. 1 Corinthiens 7, verset 15. Dieu, c'est la fin du verset, nous a appelés à vivre en paix. Dieu nous a appelés à vivre en paix les uns avec les autres, en paix autour de nous, en paix avec notre société. Ailleurs, en 1 Pierre 3, verset 9, il va le préciser. 1 Pierre 3, 9. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Nous sommes appelés à bénir. Nous sommes appelés dans notre vie à ce que nous soyons en bénédiction autour de nous. Et ça commence par ne pas rendre injure pour injure, mal pour mal. Appelés à vivre en paix. Appelés à être en bénédiction. Et même, si on va un tout petit peu avant, 1 Pierre 2, au verset 21, il faut lire le verset 20 pour comprendre. Et c'est dans un contexte très général, hein, et ça peut être souffrir pour Jésus-Christ de la persécution, mais ça peut être simplement au boulot, quand on supporte un patron difficile. C'est le verset 18 qui dit « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. » Et il dit « Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. » En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et le verset 21 nous achève. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Et c'est une grâce. Le verset 19 nous dit c'est une grâce. Alors c'est aussi, ça fait partie de cet appel, vivre en paix, et ne pas rendre, être une bénédiction, bénir et ne pas maudire. Et même, nous sommes appelés à suivre Jésus-Christ lorsqu'il faut souffrir injustement par motif de conscience. Ça c'est un appel qui nous est général à tous. Alors, on le résume, on est appelé à la sainteté, pas à l'impureté. On est appelé à la liberté. Pas l'esclavage. On est appelé à la communion. Pas à être étranger, distant et froid. À la communion de Jésus. On est appelé à la paix. On est appelé à la bénédiction pour autrui. Et on est appelé à suivre les traces de Jésus-Christ dans la souffrance qu'il peut dont on peut être victime injustement. Maintenant, il y a des promesses qui accompagnent ces appels, parce qu'ils ne sont pas évidents, et les derniers ne sont pas forcément évidents. Mais il y a des promesses. Romains 8, 28, un verset bien connu. Des promesses qui accompagnent l'appel de Dieu. Romains 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Je le répète, Dieu a un projet de vie pour nous. Il a un dessein, il a fait ce croquis pour notre existence, il nous connaît avant qu'on soit né. Amen. Il nous a vus, il nous a appelés. Et pour ceux qu'il a appelés selon son dessein, selon sa vision, selon sa destinée, eh bien, toute chose concourt au bien, à leur bien. Dieu fait concourir les circonstances de la vie, les épreuves, les difficultés, les bénédictions, les gens, les rencontres. Toute chose concourt au bien de ceux qui aime Dieu. Ça, c'est une promesse qui accompagne son appel. Il nous a appelés, et pour ceux qui sont appelés selon son dessein, toute chose concourt au bien. Ce n'est pas le cas, il n'est jamais dit une telle promesse pour des personnes qui, d'abord, qui n'aiment pas Dieu, hein, il y a ce côté-là, de ceux qui aiment Dieu, et puis de ceux qui ne sont pas intégrés dans le plan de Dieu pour leur existence, parce qu'ils n'ont pas été appelés ou qu'ils n'ont pas répondu à l'appel. On se souvient de cette parabole, les noces, va dans les chemins. Pourquoi? Parce que tous les invités ne sont pas venus. Et la parabole conclut en disant, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Hein? Chacun sa responsabilité, attention. Hein? Je veux bien le redire pour ne pas qu'on croie que Dieu a mis de côté des gens pour le salut. Pas du tout. Mais nous qui sommes appelés selon son dessein, eh bien, nous avons cette certitude et nous pouvons nous y raccrocher. Quand on traverse des difficultés, toute chose concourt à mon bien. C'est le Seigneur qui l'a promis parce qu'il a un projet, il a un dessein, il a un avenir pour ma vie. Amen. Amen. Deuxième chose, Éphésiens 1, 18. Un petit peu plus, peut-être compliqué, plus abstrait, mais Éphésiens, ça vole haut, Éphésiens. Et justement, parce que ça vole haut. Pourquoi? Parce que l'héritage et des choses, des promesses et la destinée, le dessein de Dieu pour nos vies, il vole haut. Et c'est pour ça que dans la prière que Paul adresse à l'égard des Éphésiens, pour les chrétiens d'Éphèse, il dit la chose suivante. Que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Il dit, vous le réalisez pas, vous vous en rendez pas compte, mais ça vous ferait tellement de bien. Il n'y a que Dieu qui peut illuminer les yeux de votre cœur pour que vous, Eureka, hein, c'est le fameux Eureka. Voilà. Ah! J'ai compris. Je vois, je perçois, je comprends. Et il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et ça, c'est quelque chose de très important. Dieu nous appelle à la sanctification, à la paix, à toutes ces choses dont on a dit, à la liberté. Et vous savez ce qui est attaché, ce qui est lié par contrat à cet appel? C'est l'espérance. L'espérance, ce n'est pas un espoir incertain. C'est une certitude de quelque chose à venir. L'espérance biblique, c'est cette patience et cette attente de quelque chose de promis et de certain, parce que celui qui l'a promis est fidèle. Et il y a une espérance dont on a besoin de prendre conscience. Oui, j'ai été appelé par Jésus-Christ, et il y a une espérance qui s'attache à cet appel. Et cette espérance, eh bien, c'est Dieu qui l'assure, qui la prend en main, qui déploie dans le reste du texte l'infinie grandeur de sa puissance. On ne va pas rentrer dans le détail ici, mais c'est vraiment important. Nous terminons sur l'appel individuel. On a vu un appel général, on a vu la nature de celui qui nous appelle, on a vu les promesses. Mais il y a aussi un appel pour chacun d'entre nous. Dieu nous connaît par notre nom, il nous connaît dans notre vie, dans notre contexte, et il n'a pas le même projet pour chacun d'entre nous. Il y a tout le projet commun, on l'a vu, ça c'est commun à tous les enfants de Dieu, et puis il y a le projet particulier, individuel, spécifique. On peut le lire par exemple en 1 Corinthiens 5, 17. Et c'est par là que je veux terminer, parce que nous avons besoin, frères et sœurs, de prendre conscience que tous ensemble, nous sommes appelés aux mêmes choses, et en même temps, chacun de nous est appelé à quelque chose de différent. Dieu a un projet pour Nicole, il a un projet pour Jacques, il a un projet pour Daniel, pour Christine, et on peut continuer tous nos noms, un projet particulier. Sur mesure, en 1 Corinthiens 5, verset 17, donc, j'ai dû me tromper, ça n'existe pas. Hein, on est d'accord, hein? Alors. Non, c'est chapitre 7, 1 Corinthiens 7, pardon. 1 Corinthiens 7, 17. Et la question qui est autour ici, elle est, quel est mon contexte de vie, quelle est ma vie? Et l'appel que Dieu me donne, c'est quoi? Peut-être je suis marié, peut-être je suis célibataire, peut-être je suis divorcé. Peut-être, dit-il, je suis juif et circoncis, peut-être que je viens plutôt d'une tribu païenne. Peut-être que socialement, je suis esclave. Peut-être que je ne le suis pas. Au verset 24, il dit que chacun frère demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Et surtout, le verset 17 nous dit, et ça c'est le mot d'ordre, seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Ça c'est un verset très général, pour des contextes très particuliers, en disant, voilà, nous avons chacun notre spécificité, notre contexte de vie, notre histoire, notre famille, notre situation, et à un moment, Jésus arrive, il m'appelle, je réponds à son appel. Et à partir de là, il y a la part que le Seigneur m'a faite, il y a l'appel que j'ai reçu de lui, mais qui m'est propre, qui m'est individuel. Et c'est à nous de discerner cette part qu'il nous a faite. Seigneur, j'ai des frères et sœurs autour de moi et tu nous appelles tous aux mêmes choses et en même temps, tous à des choses différentes. Nos histoires ne sont pas superposables et identiques et nos appels non plus. Le Seigneur a un plan pour notre vie qui est distinct les uns des autres. Et ça, c'est formidable. Et il nous invite à marcher selon la part qu'il nous fait, qu'il nous prépare, qu'il nous constitue rien que pour nous. Ça demande de découvrir cette part. Ça demande de découvrir quel est mon appel particulier. Peut-être, on le verra au travers d'autres des exemples hein, dans d'autres prédications, mais ça peut consister simplement à rester aux côtés d'un époux dont le caractère est un petit peu soupolé. C'est exactement le contexte ici. Par exemple, ça peut être d'avoir un enfant handicapé et de l'élever, de mettre de l'énergie, etc. Et il y a un appel particulier. Il y a dans nos vies nos contextes et ce à quoi Dieu nous appelle pour l'honorer, pour le glorifier, pour être en bénédiction autour de nous, pour qu'il soit glorifié parce qu'il a choisi les choses faibles du monde pour que on ne se glorifie pas, mais pour qu'il soit, lui, glorifié. Parce qu'avec ses choses faibles, il va faire des miracles, il va faire des choses formidables. Et il ira jusqu'au bout. Amen. Alors, en acte 13, verset 2, ça peut être ce qu'on trouve. Ça peut être un service particulier. En acte 13, verset 2, nous voyons... Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Oui, le Seigneur peut à un moment dans notre vie nous mettre à part et nous dire « C'est maintenant que je t'appelle à un service particulier, à une œuvre particulière. » Vous avez vu combien de temps Moïse a attendu? Par exemple, ça peut être des moments très clés. En acte 16, verset 10, par exemple, c'est là où on a besoin de cette communion avec le Seigneur pour discerner son appel précis. Acte 16, verset 10, Paul a une vision dans la nuit, il fait un rêve. Il fait un rêve, il voit un Macédonien qui lui apparaît, qui lui dit « Passe en Macédoine, secours-nous ». Et Paul déduit, hein, il dit « Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle ». Voilà un appel du Seigneur. Le Seigneur nous appelle à aller en Macédoine pour y annoncer. Là, il y a Paul qui il fait un rêve et puis il tire une conclusion. Il dit, bon, ben, certainement, ce rêve n'est pas là pour rien. Le Seigneur l'a permis. C'est parce qu'il m'appelle à aller dans tel territoire où, au départ, je n'avais pas prévu d'aller. Vous voyez, ces appels du Seigneur particuliers, il nous les adressera à nous également. Amen. Il nous montrera. Je t'appelle à ça, tiens ça. Et terminons par Éphésiens 2:10. Ce sera notre dernier verset, qui est bien connu, mais qu'il faut repasser dans nos cœurs, et qui résume un petit peu tout notre appel. Autant l'appel qui nous est commun à tous que l'appel spécifique et général. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce que dans ce verset, on ne voit pas tout le chemin, tout le croquis que Dieu a fait ? Il a préparé des bonnes œuvres d'avance afin que nous les pratiquions, et elles sont spécifiques à chacun d'entre nous. Il a préparé ces choses, elles sont là, il nous a appelés, on est son ouvrage, on est créé en Jésus-Christ pour cela. Il nous appelle. Alors, frères et sœurs, soyons, réjouissons-nous que Jésus-Christ nous a appelés, réjouissons-nous qu'il est fidèle, réjouissons-nous des promesses qui s'attachent à son appel, et marchons, discernons l'appel qui est le nôtre. Et vous savez, le monde souvent se pose la question du sens de l'existence. Pourquoi est-ce que je suis sur terre? Pourquoi est-ce que je vis? Pourquoi est-ce que j'existe? Et on n'a jamais autant le sentiment plein et entier de savoir pourquoi on vit, pourquoi on existe, que lorsque l'on marche dans l'appel de Dieu. Quand on est dans son appel, quand on marche dans son appel, notre cœur, vous savez, là, il est posé, c'est du roc. On sait exactement pourquoi on existe, pourquoi on est sur terre. Et on a un très fort sentiment de certitude d'être dans exactement là où il faut, comme il faut, d'accomplissement de notre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est quelque chose de fort. Et c'est cette force que le Seigneur veut nous donner plutôt que de traverser l'existence un petit peu incertain, un peu doute. Où est-ce que je vis? Pourquoi est-ce que je vis? Bon, je suis chrétien, mais marchons selon l'appel, marchons dans l'appel. Et à ce moment-là, dans nos cœurs, eh bien, on est inébranlable en Jésus-Christ parce qu'on est exactement à l'endroit du plan qu'il a prévu pour notre vie. On est exactement dans les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. On est exactement dans son dessein. Chaque chose en son temps. Le dessein de Dieu, il est pour toute une vie. Avec un démarrage qui commence en salle d'opération, certainement. De manière symbolique. Parce qu'on est vraiment abîmé et on est malade, et qu'il est venu appeler des pécheurs et des malades qui ont besoin d'un médecin. Ça commence là. Ça commence quand on est dans la salle d'attente et qu'on entend notre nom, le chirurgien nous appelle, venez au bloc, allez, et le travail de Dieu commence. Amen. Seigneur, merci pour parce que tu nous as appelés. Merci parce que surtout, toi qui nous appelles, tu es fidèle. Merci pour l'espérance qui s'attache à ton appel. Merci parce que tu nous affirmes et tu nous assures que toute chose concourt à notre bien, à nous qui sommes appelés selon ton dessein. Seigneur, que nous puissions marcher pleinement dans l'appel que tu nous adresses, afin d'en être heureux, épanouis, affermis. Au nom de Jésus. Amen.